J'ai lu avec un grand plaisir votre nouvel ouvrage qui s'appelle « Nouvelle nature, nouveau jardin ». Et on sent dans cet ouvrage, Louisa Jones, que vous êtes très attachée au Languedoc. Et vous trouvez qu'il y a vraiment une très grande diversité de jardins dans votre région.
Oui, ce n'est pas ma région personnelle. Hein. Je n'habite pas la Languedoc, mais j'habite pas très loin. Mais ça fait même 30 ans que j'explore tout le Midi, pas uniquement la Languedoc-Roussillon. Effectivement, je pense qu'il y a une plus grande diversité en Languedoc-Roussillon que par exemple en Provence, où qui a déjà été le sujet de beaucoup de mes livres, parce qu'il y a beaucoup plus de variété de jardiniers. Il y a beaucoup plus de gens des milieux très variés et il y a aussi une grande variété de paysages. Il y a beaucoup de microclimats très particuliers en Languedoc-Roussillon.
Et vous avez intitulé votre livre « Nouvelle nature au pluriel ». Qu'est-ce que vous entendez par là?
Oui, c'est une façon d'introduire l'idée des jardiniers qui sont naturalistes et qui explorent un rapport entre l'homme et la nature qui, à mon avis, est assez particulier à cette région, qui date déjà depuis le Moyen-Âge et qui une façon un partenariat, en quelque sorte, entre les gens qui habitent la région. Vous savez que la Méditerranée, en Méditerranée en général, l'être humain occupe la terre depuis des millénaires. Mmh. Et sous tout le pourtour méditerranéen, un rapport différent entre l'homme et la nature que ailleurs dans le nord de l'Europe, par exemple. Mais il se trouve qu'en Languedoc-Roussillon, il y a eu cette tradition de botanique qui est assez différente de la tradition d'horticulture comme c'est pratiqué, par exemple, en Grande-Bretagne. Et c'est une façon... Aujourd'hui, tout le monde a envie de mieux connaître la nature et là, c'est une façon de jardiner en partenariat avec la nature. Donc, c'est quand même un modèle pour tout le monde, il me semble, aujourd'hui.
Il faut dire tout de suite qu'il y a de magnifiques photos dans votre ouvrage. Elles sont de Béatrice Pichon et c'est vraiment... Ça donne envie de visiter tous les jardins dont vous parlez.
C'est gentil, oui. Non, moi, je pense qu'elle est très douée. D'ailleurs, le livre, au départ, c'était une idée de Béatrice Pichon. Hein. C'est à elle que je dois d'avoir pu explorer ce sujet. La mise en page aussi de l'éditeur met bien en valeur les photos.
C'est vraiment un ouvrage très, très agréable à lire. Comment vous est venue l'idée d'écrire cet ouvrage? Ce sont des rencontres, des jardins et des propriétaires de jardins?
Oui, mais je travaille sur les jardins dans le sud de la France, comme je vous le dis, depuis 30 ans. Et j'ai fait beaucoup d'autres ouvrages sur les jardins du sud. Et il y a 2-3 ans, j'ai fait un almanach des paysages et jardins du sud qui va de Bordeaux à Montant. Et c'est lors de la préparation de ce livre-là, où j'ai interviewé beaucoup de gens, que j'ai rencontré Béatrice Pichon, qui a eu l'idée elle-même de faire quelque chose spécifiquement sur la Languedoc-Roussillon. Mmh. Mais je ne savais pas quand j'ai commencé le livre, on ne sait pas où on va exactement avec un livre. Alors je ne savais pas exactement ce que j'allais découvrir, et cette tradition des jardiniers naturalistes, ça m'a passionnée et ça m'a paru vraiment un thème particulier à la région.
Donc ces jardiniers naturalistes, ils nous proposent, vous nous proposez de bien vivre en plein air. Et là, est-ce qu'il y a un renouveau peut-être de cet aspect de proximité avec la nature?
Ah oui, je crois, oui. Je pense que c'est vraiment une chose, un thème qui est général, mais très particulier à cette région, comme il y a une telle variété de paysages dans cette région, et comme beaucoup de gens, évidemment, s'installent dans le sud pour mieux vivre au soleil, ça c'est certain, un peu partout. Et on découvre de mieux en mieux la Languedoc-Roussillon, parce que c'est moins connu que la Provence ou la Côte d'Azur, et c'est aussi plus grand, il y a des paysages plus vastes, il y a des paysages assez spectaculaires aussi. Hein. On peut à la fois explorer le côté sauvage et jardinier dans des situations exceptionnelles.
Et alors c'est un livre qui regorge de couleurs, de senteurs, de saveurs, parce que vraiment le jardin devient un lieu de plaisir. On sort du jardin potager ou du jardin d'ornement un peu coincé et il est fabuleux. Quelles sont les tendances justement?
Je crois qu'il y a justement cette tendance à ne pas faire des jardins à regarder, mais des jardins à vivre. Et à vivre pleinement, on produit un peu ce qu'on mange et on sait mieux ce qu'il y a dans l'assiette. On a le plaisir d'être en contact direct avec le jardin. On ne le voit pas comme, on ne le vit pas comme une série de tableaux, par exemple, de peinture. Et c'est aussi mieux profiter de la vie en plein air. Donc, il y a beaucoup de, c'est à la fois pratique et beau. Et ça, c'est important. Ça fait aussi une partie de la tradition méditerranéenne.
Et on réintroduit des objets de la maison dans le jardin. Je pense à la couverture qui est magnifique avec ses voilages de toutes les couleurs. C'est intéressant de mettre des tissus dans les jardins.
Ça, c'est le jardin des Sambucs, qui est un lieu d'imagination extraordinaire à côté du Vigan. Et c'est un bon exemple aussi du jardin traditionnel des grands-mères, genre un peu paysan, qui a été repris par la jeune génération de la famille et qui est devenu un lieu d'art, en fait, parce que les gens qui gèrent ce jardin, qui l'ont créé aussi, en quelque sorte, pour l'ouvrir au public. Ça, c'est aussi une tendance actuelle, l'ouverture des jardins au public, le tourisme vert. Mais ils le font avec une imagination vraiment exceptionnelle.
Il y a aussi beaucoup d'œuvres d'art qui descendent dans les jardins. Enfin, le jardin lui-même devient une œuvre d'art.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et même là aussi, à tous les niveaux, pour les gens de tous les milieux, avec des grands moyens et des petits moyens. On peut créer avec en récupérant des objets un peu perdus, des voilages, par exemple, sur la couverture. Mais on peut aussi, il y a aussi des grands artistes qui ont des grands moyens, qui travaillent pour des mécènes. Donc, il y a à tous les niveaux.
Est-ce qu'il y a un message développement durable? Parce que je pense à la préservation de la biodiversité. Et on a aussi de la récupération, comme vous veniez de le dire, avec des objets qui descendent dans les jardins. C'est très sensible, ce message de développement durable?
Oui, tout à fait. Et tout à fait lié à la biodiversité aussi. Parce que, en fait, je vous disais que l'être humain occupe la Terre en Méditerranée depuis 8 à 10 000 ans. Mm-hmm. On découvre aujourd'hui que c'était justement un très bon exemple de développement durable, ou même développement, c'est pas vraiment le mot, mais d'équilibre durable avec la nature. Et les paysages de Garrigue en particulier sont des exemples de paysages humanisés où les autres espèces se sont adaptées à l'être humain et l'être humain a pu survivre pendant des siècles et tout à fait en équilibre avec la nature. Donc c'est un très bon exemple, je crois, pour tout le monde, ça.
Un retour aux sources, un petit peu.
Absolument, oui. Oui, mais pas du tout non plus le retour à la bougie. C'est vraiment une nouvelle façon de vivre la campagne. C'est tout à fait tourné vers l'avenir quand même.
J'aimerais bien aussi que vous nous parliez de ce concept, le land art, ancien et d'avant-garde. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Un très bon exemple, c'est la pierre sèche. C'est la pierre sèche qui est une technique qui est utilisée depuis les débuts de la préhistoire, hein. Et puis qui a été une technique agricole ancienne, et dont on peut faire des choses absolument essentielles à la survie, comme les terrasses de culture, mais qui devient aussi une technique très pratiquée par les artistes actuels qui travaillent en plein air sur un site. Qui font des structures absolument impressionnantes, qui sont très, très harmonieuses dans la nature, où l'emplacement est aussi bien, aussi important que la chose construite. Et on fait de même avec la taille paysagère des arbres, par exemple. Sans imposer une forme à un arbre, on peut tailler un arbre vivant, mais aussi des arbres morts. Il y a cette marque du Serra, qui est cité dans le livre, il y a une photo d'une de ses œuvres où il renverse un arbre. Ils le font aussi à la Bruchère, les jardins de Grand Laude. Et ce sont des façons aussi de récupérer des objets ou des choses perdues, de leur donner une nouvelle vie et de sentir la continuité des techniques et des objets du passé qui prennent une nouvelle art et qui ont un nouveau sens en tant que land art actuel.
On réhabilite aussi des sites industriels.
Oui, aussi. Ce n'est pas uniquement à la campagne non plus. C'est des choses qui se passent aussi en ville, au jardin médiéval, par exemple à Uzès, où là où ils ont des expositions d'art tout l'été. Mais ils ont aussi l'équipe qui travaille le jardin fait aussi de la céramique et fait des œuvres en céramique qui sont exposées dans le jardin.
Il y a de très belles rencontres avec des paysagistes aussi. Vous avez rencontré des gens remarquables.
Il y en a beaucoup qui travaillent dans l'Andecoussillon, notamment dans le Gard. Hein. Il y a André Morière et Eric Ossard qui sont maintenant installés en Afrique, mais en Maroc, mais qui ont déjà fondé, par exemple, le musée à Saint-Quentin, le musée de la poterie. C'est leur collection personnelle qui est installée là. Ou Pascal Cribier de Paris qui a fait une œuvre remarquable dans le Gard, dans un château.
Il y a une densité particulière de paysagistes dans le Languedoc?
Non, je crois qu'on ne peut pas dire ça. Il y en a beaucoup plus qui travaillent en Provence parce qu'il y a un public mécénat beaucoup plus développé en Provence pour les paysagistes qui ont une réputation internationale. Mais ce qui commence en Languedoc, c'est assez intéressant et utile, je crois. Ce sont des paysagistes, pas pour les gens qui ont très fortuné, mais pour simplement les gens qui s'installent et qui ont besoin de conseils ou d'aide et qui ne sont pas hors de prix et des stars, mais qui sont aussi de simples conseils. Et ça, c'est très utile aussi.
Et pour finir, Louisa Jones, vous auriez quelques adresses de tourisme vert particulièrement intéressantes à nous recommander?
Ben, je crois que c'est très développé dans le Gard. Et le comité départemental de tourisme dans le Gard a aussi un site web où on peut trouver un dépliant qui s'appelle Méli-Mélo qu'on peut télécharger sur leur site, le comité départemental de tourisme du Gard. Mais il y a aussi, par exemple, pour ceux qui veulent faire un séjour de visite de jardin, il y a une compagnie qui est basée aussi près de Béziers, qui fait aussi, mais en anglais que en français, qui fait des visites de jardin. Donc, toutes ces adresses sont dans le livre aussi.
Votre livre s'adresse à des amoureux de la nature, à des professionnels, à tous ceux qui ont envie de découvrir le Languedoc?
Oh, je crois que c'est pour tous ceux qui ont envie de découvrir le Languedoc, et pas uniquement les jardiniers, mais c'est aussi pour ceux qui veulent comprendre en quoi la vie en Méditerranée, pourquoi elle nous séduit tellement. Et moi, vous entendez bien mon accent, je suis pas d'ici, même si je suis d'ici, je suis canadienne d'origine, mais j'habite ici depuis 74, donc ça fait quand même un petit moment. Ici, pour moi, c'est pas le Languedoc-Roussillon, mais c'est tout près, c'est dans le sud de l'Ardèche. C'est vrai que la Méditerranée exerce une fascination et on comprend cette harmonie de vie, on la comprend bien par l'exemple languedocien.
Nouvelle nature, nouveau jardin, l'ouvrage de Louisa Jones, est paru aux éditions Ulmer, illustré de photos de Béatrice Pichon.